Chapitre 12. Le lendemain matin, on me trouva étendu sur le tapis, raide et glacé comme par la mort. J'eus une fièvre cérébrale. Je crois que Léonie me donna des soins. Il me sembla le voir souvent à mon chevet, mais je n'en pus conserver qu'une idée vague. Au bout de 3 jours, j'étais hors de danger. Léonie vint alors savoir de mes nouvelles de temps en temps et passait une partie de l'après-midi avec moi. Il quittait le palais tous les soirs à 6 heures et ne rentrait que le lendemain matin. J'ai su cela plus tard. De tout ce que j'avais entendu, je n'avais compris clairement qu'une chose qui était la cause de mon désespoir, c'est que Léonie ne m'aimait plus. Jusque-là, je n'avais pas voulu le croire, quoique toute sa conduite dût me le faire comprendre. Je résolus de ne pas contribuer plus longtemps à sa ruine et de ne pas abuser d'un reste de compassion et de générosité qui lui prescrivait encore des égards envers moi. Je le fis appeler, aussitôt que je me sentis la force de supporter cette entrevue, et je lui déclarai ce que je lui avais entendu dire de moi au milieu de l'orgie. Je gardai le silence sur tout le reste. Je ne voyais pas clair dans cette confusion d'infamie que ses amis m'avaient fait pressentir. Je ne voulais pas comprendre cela. Je consentais à tout d'ailleurs, à mon abandon, à mon désespoir et à ma mort. Je lui signifiais que j'étais décidé à partir dans 8 jours et que je ne voulais rien accepter de lui désormais. J'avais gardé l'épingle de mon père. En la vendant, j'aurais bien au-delà de ce qu'il me fallait d'argent pour retourner à Bruxelles. Le courage avec lequel je parlais et que la fièvre aidait sans doute frappa Léonie d'un coup inattendu. Il garda le silence et marcha avec agitation dans la chambre. Puis des sanglots et des cris s'échappèrent de sa poitrine. Il tomba suffoqué sur une chaise. Effrayé de l'état où je le voyais, je quittai comme malgré moi ma chaise longue et je m'approchai de lui avec sollicitude. Alors il me saisit dans ses bras et me serrant avec frénésie. « Non, 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 tu ne me quitteras pas !» s'écria-t-il. « Jamais je n'y consentirai. » Si la fierté, bien juste et bien légitime, ne se laisse pas fléchir, je me coucherai à tes pieds en travers de cette porte et je me tuerai si tu marches sur moi. « Non, tu ne t'en iras pas, car je t'aime avec passion. » Tu es la seule femme au monde que j'ai pu respecter et admirer encore après l'avoir possédée 6 mois. Ce que j'ai dit est une sottise, une infamie et un mensonge. Tu ne sais pas, Juliette, oh, tu ne sais pas tous mes malheurs. Tu ne sais pas à quoi me condamne une société d'hommes perdus, à quoi m'entraîne une âme de bronze, de feu, d'or et de boue que j'ai reçue du ciel et de l'enfer réunis. Si tu ne veux plus m'aimer, je ne veux plus vivre. Que n'ai-je pas fait, que n'ai-je pas sacrifié, que n'ai-je pas souillé pour m'attacher à cette vie exécrable qu'ils m'ont faite? Quel démon moqueur s'est donc enfermé dans mon cerveau pour que j'y trouve encore parfois de l'attrait et pour que je brise en m'y élançant les liens les plus sacrés? Ah oui, il est temps d'en finir. Je n'avais eu, depuis que je suis au monde, qu'une période vraiment belle, vraiment pure, celle où je t'ai possédé et adoré. Cela m'avait lavé de toutes mes iniquités, et j'aurais dû rester sous la neige dans le chalet. Je serais mort en paix avec toi, avec Dieu et avec moi-même, tandis que me voilà perdu à tes yeux et aux miens. Juliette, Juliette, grâce, pardon, je sens mon âme se briser si tu m'abandonnes. Je suis encore jeune, je veux vivre, je veux être heureux, et je ne le serai jamais qu'avec toi. Veux-tu me punir de mort pour un blasphème échappé à l'ivresse? Y crois-tu? Y peux-tu croire? Oh, que je souffre, que j'ai souffert depuis 15 jours. J'ai des secrets qui me brûlent les entrailles. Si je pouvais te les dire, mais tu ne pourrais jamais les entendre jusqu'au bout. Je les sais, lui dis-je. Et si tu m'aimais, je serais insensible à tout le reste. Tu les sais, s'écria-t-il d'un air égaré. Tu les sais, mais que sais-tu? Je sais que vous êtes ruiné, que ce palais n'est point à vous, que vous avez mangé en 3 mois une somme immense. Je sais que vous êtes habitué à cette existence aventureuse et à ces désordres. J'ignore comment vous défaites si vite et comment vous rétablissez votre fortune ainsi. Je pense que le jeu est votre perte et votre ressource. Je crois que vous avez autour de vous une société funeste et que vous luttez contre d'affreux conseils. Je crois que vous êtes au bord d'un abîme, mais que vous pouvez encore le fuir. Eh bien oui, tout cela est vrai, s'écria-t-il. Tu sais tout, et tu me le pardonnerais? Si je l'avais perdu, votre amour, lui dis-je, je croirais n'avoir rien perdu en quittant ce palais, ce faste et ce monde qui me sont odieux. Quelque pauvres que nous fussions, nous pourrions toujours vivre comme nous avons fait dans notre chalet, soit là, soit ailleurs, si vous êtes là de la Suisse. Si vous m'aimiez encore, vous ne seriez pas perdu, car vous ne penseriez ni au jeu ni à l'intempérance, ni à aucune des passions que vous avez célébrées dans un toast diabolique. Si vous m'aimiez, nous paierions avec ce qui nous reste ce que vous pouvez devoir, et nous irions nous ensevelir et nous aimer dans quelque retraite où j'oublierai vite ce que je viens d'apprendre, où je vous le rappellerai jamais, où je ne pourrai pas en souffrir. Si vous m'aimiez. Oh, je t'aime, s'écria-t-il. Partons, sauvons-nous. Sauve-moi. Sois ma bienfaitrice, mon ange, comme tu l'as toujours été. Viens, pardonne-moi. Il se jeta à mes pieds. Tout ce que la passion la plus fervente peut dicter, il me le dit avec tant de chaleur que j'y crus et que j'y croirai toujours. Léonie me trompait, m'avilissait et m'aimait en même temps. Un jour, pour se soustraire aux vifs reproches que je lui adressais, il essaya de réhabiliter la passion du jeu. « Le jeu, » me disait-il, avec cette éloquence spécieuse qui n'avait que trop d'empire sur moi, « c'est une passion bien autrement énergique que l'amour. » Plus féconde en drames terribles, elle est plus enivrante, plus héroïque dans les actes qui concourent à son but. Il faut le dire, hélas, si ce but est vil en apparence, l'ardeur est puissante, l'audace est sublime, les sacrifices sont aveugles et sans bornes. Jamais, oh, il faut que tu le saches, Juliette, jamais les femmes n'en inspirent de pareilles. L'or est une puissance supérieure à la leur. En force, en courage, en dévouement, en persévérance, au prix du joueur, l'amant n'est qu'un faible enfant dont les efforts sont dignes de pitié. Combien peu d'hommes avez-vous vu sacrifier à leur maîtresse ce bien inestimable, cette nécessité sans prix, cette condition d'existence sans laquelle on pense qu'il n'y a pas d'existence insupportable, l'honneur. Je n'en connais guère dont le dévouement aille plus loin que le sacrifice de la vie. Tous les jours, le joueur immole son honneur et supporte la vie. Le joueur est âpre, il est stoïque, il triomphe froidement, il succombe froidement. Il passe en quelques heures des derniers rangs de la société au premier. Dans quelques heures, il redescend au point d'où il était parti, et cela sans changer d'attitude ni de visage. Dans quelques heures, sans quitter la place où son démon l'enchaîne, il parcourt toutes les vicissitudes de la vie, il passe par toutes les chances de fortune qui représentent les différentes conditions sociales. Tour à tour roi et mendiant, il gravit d'un seul bond l'échelle immense, toujours calme, toujours maître de lui, toujours soutenu par sa robuste ambition, toujours excité par l'âcre soif qu'il dévore. Que sera-t-il tout à l'heure, prince ou esclave? Comment sortira-t-il de cet antre, nu ou courbé sous le poids de l'or? Qu'importe, il y reviendra demain refaire sa fortune, la perdre ou la tripler. Ce qu'il y a d'impossible pour lui, c'est le repos. Il est comme l'oiseau des tempêtes qui ne peut vivre sans les flots agités et les vents en fureur. On l'accuse d'aimer l'or, mais il l'aime si peu qu'il le jette à pleine main. Ses dons de l'enfer ne sauraient lui profiter ni l'assouvir. À peine riche, il lui tarde d'être ruiné, afin de goûter encore cette nerveuse et terrible émotion sans laquelle la vie lui est insipide. Qu'est-ce donc que l'or à ses yeux? Moins par lui-même que des grains de sable aux vôtres. Mais l'or lui est un emblème des biens et des maux qu'il vient chercher et braver. L'or, c'est son jouet, c'est son ennemi, c'est son dieu, c'est son rêve, c'est son démon, c'est sa maîtresse, c'est sa poésie. C'est l'ombre qu'il poursuit, qu'il attaque, qu'il étreint, puis qu'il laisse échapper pour avoir le plaisir de recommencer la lutte et de se prendre encore une fois corps à corps avec le destin. Va, c'est beau cela. C'est absurde, il faut le condamner, parce que l'énergie employée ainsi est sans profit pour la société, parce que l'homme qui dirige ses forces vers un pareil but vole à ses semblables tout le bien qu'il aurait pu leur faire avec moins d'égoïsme. Mais en le condamnant, ne le méprisez pas, petites organisations qui n'êtes capables ni de bien ni de mal. Ne mesurez qu'avec effroi le colosse de volonté qui lutte ainsi sur une mer fougueuse pour le seul plaisir d'exercer sa vigueur et de la jeter en dehors de lui. Son égoïsme le pousse au milieu des fatigues et des dangers, comme le vôtre vous enchaîne à de patientes et laborieuses professions. Combien comptez-vous dans le monde d'hommes qui travaillent pour la patrie sans songer à eux-mêmes? Lui, il s'isole franchement, il se met à part, il dispose de son avenir, de son présent, de son repos, de son honneur, il se condamne à la souffrance, à la fatigue. Déplorez son erreur, mais ne vous comparez pas à lui, dans le secret de votre orgueil, pour vous glorifier à ses dépens. Que son fatal exemple serve seulement à vous consoler de votre inoffensive nullité. Ô ciel, lui répondis-je, de quel sophisme votre cœur s'est-il donc nourri? Ou bien quelle est la faiblesse de mon intelligence? Quoi, le joueur ne serait pas méprisable? Ô Léonie, pourquoi, ayant tant de force, ne l'avez-vous pas employé à vous dompter dans l'intérêt de vos semblables? C'est, répondit-il d'un ton ironique et amer, que j'ai mal compris la vie, apparemment. C'est que mon amour-propre m'a mal conseillé. C'est qu'au lieu de monter sur un théâtre somptueux, je suis monté sur un théâtre en plein vent. C'est qu'au lieu de m'employer à déclamer de spécieuses moralités sur la scène du monde et à jouer les rôles héroïques, je me suis amusé, pour donner carrière à la vigueur de nos muscles, à faire des tours de force et à me risquer sur un fil d'arcal. Et encore, cette comparaison ne vaut rien. Le saltimbanque a sa vanité, comme le tragédien, comme l'orateur philanthrope. Le joueur n'en a pas. Il n'est ni admiré, ni applaudi, ni envié. Ses triomphes sont si courts et si hasardés que ce n'est pas la peine d'en parler. Au contraire, la société le condamne, le vulgaire le méprise, surtout les jours où il a perdu. Tout son charlatanisme consiste à faire bonne contenance, à tomber décemment devant un groupe d'intéressés qui ne le regardent même pas tant ils ont une haute contention d'esprit qui les absorbe. Si dans ses rapides heures de fortune, il trouve quelque plaisir à satisfaire les vulgaires vanités du luxe, c'est un tribut bien court qu'il paye aux faiblesses humaines. Bientôt, il va sacrifier sans pitié ses puériles jouissances d'un instant à l'activité dévorante de son âme, à cette fièvre infernale qui ne lui permet pas de vivre tout un jour de la vie des autres hommes. De la vanité à lui, mais il n'en a pas le temps, il a bien autre chose à faire. N'a-t-il pas son cœur à faire souffrir, sa tête à bouleverser, son sang à boire, sa chair à tourmenter, son or à perdre, sa vie à remettre en question, à reconstruire, à défaire, à tordre, à déchirer par lambeaux, à risquer en bloc, à reconquérir pièce à pièce, à mettre dans sa bourse, à jeter sur la table à chaque instant? Demandez au marin s'il peut vivre à terre, à l'oiseau s'il peut être heureux sans ses ailes, au cœur de l'homme s'il peut se passer d'émotion. Le joueur n'est donc pas criminel par lui-même. C'est sa position sociale qui presque toujours le rend tel. C'est sa famille qu'il ruine ou qu'il déshonore. Mais supposez-le comme moi, isolé dans le monde, sans affection, sans parenté à ses intimes pour être pris en considération, libre, abandonné à lui-même, rassasié ou trompé en amour, comme je l'ai été si souvent, et vous plaindrez son erreur. Vous regretterez pour lui qu'il ne soit pas né avec un tempérament sanguin et vaniteux, plutôt qu'avec un tempérament bilieux et concentré. Où prend-on que le joueur soit dans la même catégorie que les flibustiers et les brigands? Demandez au gouvernement pourquoi ils tirent une partie de leur richesse d'une source si honteuse. Eux seuls sont coupables d'offrir ces horribles tentations à l'inquiétude, ces funestes ressources au désespoir. Si l'amour du jeu n'est pas en lui-même aussi honteux que la plupart des autres penchants, c'est le plus dangereux de tous, le plus âpre, le plus irrésistible, celui dont les conséquences sont les plus misérables. Il est presque impossible aux joueurs de ne pas se déshonorer au bout de quelques années. Quant à moi, poursuivit-il d'un air plus sombre et d'une voix moins vibrante, après avoir pendant longtemps supporté cette vie d'angoisse et de convulsion, avec l'héroïsme chevaleresque qui était à la base de mon caractère, je me laissais enfin corrompre. C'est-à-dire que, mon âme s'usant peu à peu à ce combat perpétuel, je perdis la force stoïque avec laquelle j'avais su accepter les revers, supporter les privations d'une affreuse misère, recommencer patiemment l'édifice de ma fortune, parfois avec une obole, attendre, espérer, marcher prudemment et pas à pas, sacrifier tout un mois à réparer les pertes d'un jour. Voilà, telle fut longtemps ma vie. Mais enfin, las de souffrir, je commençais à chercher hors de ma volonté, hors de ma vertu, car il faut bien le dire, le joueur a sa vertu aussi, les moyens de regagner plus vite les valeurs perdues. J'empruntais, dès lors, je fus perdu moi-même. On souffre d'abord cruellement de se trouver dans une situation indélicate. Et puis, on s'y fait comme à tout. On s'étourdit. On se blase. Alors je fis comme font les joueurs et les prodigues. Je devins nuisible et dangereuse à mes amis. J'accumulais sur leur tête les maux que longtemps j'avais courageusement assumés sur la mienne. Je fus coupable. Je risquais mon honneur. puis l'existence et l'honneur de mes proches, comme j'avais risqué mes biens. Le jeu a cela d'horrible qui ne vous donne pas de ces façons, de ces leçons sur lesquelles il n'y a point à revenir. Il est toujours là, qui vous appelle. Cet or qui ne s'épuise jamais est toujours devant vos yeux. Il vous suit, il vous invite, il vous dit « espère ». Et parfois il tient ses promesses. Il vous rend l'audace, il rétablit votre crédit, il semble retarder encore le déshonneur. Mais le déshonneur est consumé du jour où l'honneur est volontairement mis en risque. Et ici, Léonie baissa la tête et tomba dans un morne silence. La confession qu'il avait peut-être songé à me faire expira sur ses lèvres. Je vis à sa honte et à sa tristesse qu'il était bien inutile de rétorquer les arguments sophistiques de son désordre. Sa conscience s'en était déjà chargée. « Écoute, me dit-il quand nous fûmes réconciliés, demain je ferme la maison à tous mes commensaux et je pars pour Milan, où j'ai à toucher encore une somme assez forte qui m'est due. Pendant ce temps, soigne-toi bien, rétablis ta santé, mets en ordre toutes les requêtes de nos créanciers et fais-les après de notre départ. » Dans 8 jours, dans 15 au plus, je reviendrai payer nos dettes et te chercher pour aller vivre avec toi où tu voudras pour toujours. Je crus à tout, je consentis à tout. Il partit et la maison fut fermée. Je n'attendis pas que je fusse entièrement guéri pour m'occuper de remettre tout en ordre et de reviser les mémoires des fournisseurs. J'espérais que Léonie m'écrirait dès son arrivée à Milan, comme il me l'avait promis. Il fut plus de 8 jours sans me donner de ses nouvelles. Il m'annonça enfin qu'il était sûr de toucher beaucoup plus d'argent que nous n'en devions, mais qu'il serait obligé de rester 20 jours absent au lieu de 15. Je me résignai. Au bout de 20 jours, une nouvelle lettre m'annonça qu'il était forcé d'attendre ses rentrées jusqu'à la fin du mois. Je tombai dans le découragement. Seul dans ce grand palais, où, pour échapper aux insolentes visites des compagnons de Léonie, j'étais obligé de me cacher, de baisser les stores de ma fenêtre et de soutenir une espèce de siège, dévoré d'inquiétude, malade et faible, livré aux plus noires réflexions et à tous les remords que l'aiguillon du malheur réveille, je fus plusieurs fois tenté de mettre fin à ma déplorable vie. Mais je n'étais pas au bout de mes souffrances. Chapitre 13. Un matin, que je croyais être seul dans le grand salon et que je tenais un livre ouvert sur mes genoux, sans songer à le regarder, j'entendis du bruit auprès de moi, et sortant de ma léthargie, je vis la détestable figure du vicomte de Chalmes. Je fis un cri et j'allais le chasser, lorsqu'il se confondit en excuses, d'un air à la fois respectueux et railleur, auquel je ne sus que répondre. Il me dit qu'il avait forcé ma porte sur l'autorisation d'une lettre de Léonie, qu'il avait spécialement chargé de venir s'informer de ma santé et de lui en donner des nouvelles. Je ne crus point à ce prétexte et j'allais le lui dire. Mais, sans m'en laisser le temps, il se mit à parler lui-même avec un sang-froid si impudent qu'à moins d'appeler mes gens, il m'eût été impossible de le mettre à la porte. Il était décidé à ne rien comprendre. « Je vois, madame, me dit-il d'un air d'intérêt hypocrite, que vous êtes informée de la situation fâcheuse où se trouve le baron. Soyez sûr que mes faibles ressources sont à sa disposition. C'est malheureusement bien peu de choses pour contempler la prodigalité d'un caractère si magnifique. Ce qui me console, c'est qu'il est courageux, entreprenant et ingénieux. Il a refait plusieurs fois sa fortune. Il la relèvera encore. Mais vous aurez à souffrir, vous, madame, si jeune, si délicate et si digne d'un meilleur sort. C'est pour vous que je m'afflige profondément des folies de Léonie et de toutes celles qu'il va encore commettre avant de trouver des ressources. La misère est une horrible chose à votre âge. Et quand on a toujours vécu dans le luxe... Je l'interrompis brusquement, car je crus voir où il voulait en venir avec son injurieuse compassion. Je ne comprenais pas encore toute la bassesse de ce personnage. Devinant ma méfiance, il s'empressa de la combattre. Il me fit entendre, avec toute la politesse de son langage subtil et froid, qu'il se jugeait trop vieux et trop peu riche pour m'offrir son appui, mais qu'un jeune lord, immensément riche, qui m'avait été présenté par lui, et qui m'avait fait quelques visites, lui avait confié l'honorable message de me tenter par des promesses magnifiques. Je n'eus pas la force de répondre à cet affront. J'étais si faible et si abattu que je me mis à pleurer sans rien dire. L'infâme Chalm crut que j'étais ébranlé. Et pour me décider entièrement, il me déclara que Léonie ne reviendrait point à Venise, qu'il était enchaîné aux pieds de la princesse Zagrollo et qu'il lui avait donné plein pouvoir de traiter cette affaire avec moi. L'indignation me rendit enfin la présence d'esprit dont j'avais besoin pour accabler cet homme de mépris et de confusion. Mais il fut bientôt remis de son trouble. « Je vois, madame, me dit-il, que votre jeunesse et votre candeur ont été cruellement abusées, et je ne saurais vous rendre haine pour haine, car vous me méconnaissez et vous m'accusez. Moi, je vous connais et vous estime. J'aurais, pour entendre vos reproches et vos injures, tout le stoïcisme dont le véritable dévouement doit savoir s'armer, et je vous dirai dans quel abîme vous êtes tombé et de quelle abjection je voudrais vous retirer. » Il prononça ces mots avec tant de force et de calme que mon crédule caractère en fut comme subjugué. Un instant, je pensais que dans le trouble de mes malheurs, j'avais peut-être méconnu un homme sincère. Fasciné par l'impudente sérénité de son visage, j'oubliais les dégoûtantes paroles que je lui avais entendues prononcer, et je lui laissais le temps de parler. Il vit qu'il fallait profiter de ce moment d'incertitude et de faiblesse, et se hâta de me donner sur Léonie des renseignements d'une odieuse vérité. « J'admire, dit-il, comment votre cœur, facile et confiant, a pu s'attacher si longtemps à un caractère semblable. Il est vrai que la nature l'a doté de séductions irrésistibles et qu'il a une habileté extraordinaire pour cacher ses turpitudes et pour prendre les dehors de la loyauté. Toutes les villes de l'Europe le connaissent pour un roué charmant. Quelques personnes seulement en Italie savent qu'il est capable de toutes les scélératesses pour satisfaire ses fantaisies innombrables. Aujourd'hui, vous le verrez se modeler sur le type de Lovelace, demain sur celui du pasteur Fido. Comme il est un peu poète, il est capable de recevoir toutes les impressions, de comprendre et de singer toutes les vertus, d'étudier et de jouer tous les rôles. Il croit sentir tout ce qu'il imite, et quelquefois il s'identifie tellement avec le personnage qu'il a choisi qu'il en ressent les passions et en saisit la grandeur. Mais, comme le fond de son âme est vil et corrompu, comme il n'y a en lui qu'affectation et caprice, le vice réveille tout à coup dans son sang l'ennui de son hypocrisie, le jette dans des habitudes entièrement contraires à celles qui semblaient lui être naturelles. Ceux qui ne l'ont vu que sous l'une de ses faces mensongères s'étonnent et le croient devenu fou. Mais ceux qui savent que son caractère est de n'en avoir aucun de vrai sourient et attendent paisiblement quelque nouvelle invention. Quoique ce portrait horrible me révoltait au point de me suffoquer, il me semblait y voir briller des traits d'une lumière accablante. J'étais atterré, mes nerfs se contractaient, je regardais Chalm d'un air effaré. Il s'applaudit de sa puissance et continua. Ce caractère vous étonne. Oh, si vous aviez plus d'expérience, ma chère dame, vous sauriez qu'il est fort répandu dans le monde. Pour l'avoir à un certain degré, il faut une certaine supériorité d'intelligence. Et si beaucoup de sots s'en abstiennent, c'est qu'ils sont capables de les soutenir. Vous verrez presque toujours un homme médiocre et vain se renfermer dans une manière d'être obstiné, qu'il prendra pour une spécialité et qui le consolera des succès d'autrui. Il s'avouera moins brillant, mais il se déclarera plus solide et plus utile. La terre n'est peuplée que d'imbéciles insupportables ou de fous nuisibles. Mais, tout bien considéré, j'aime encore mieux les derniers. J'ai assez de prudence pour m'en préserver et assez de tolérance pour m'en amuser. Mieux vaut rire avec un malicieux bouffon que bâiller avec un bonhomme ennuyeux. C'est pourquoi vous m'avez vu dans l'intimité d'un homme que je n'aime ni n'estime. D'ailleurs, j'étais attiré ici par vos manières affables, par votre angélique douceur. Je me sentais pour vous une amitié paternelle. Le jeune Lord Edwards, qui vous avait vu de sa fenêtre passer des heures entières, immobile et rêveuse à votre balcon, m'avait pris pour confident de la passion violente qu'il a conçue pour vous. Je l'avais présenté ici, désirant franchement et ardemment que vous ne restassiez pas plus longtemps dans la position douloureuse et humiliante où l'abandon de Léonie vous laissait. Je savais que Lord Edwards avait une âme digne de la vôtre et qu'il vous ferait une existence heureuse et honorable. Je viens aujourd'hui renouveler mes efforts et vous révéler son amour que vous n'avez pas voulu comprendre. Je mordais mon mouchoir de colère, mais dévoré par une idée fixe, je me levai et je lui dis avec force « Vous prétendez que Léonie vous autorise à me faire ces infâmes propositions, mais prouvez-le-moi, oui monsieur, prouvez-le !» Et je lui secouai le bras convulsivement. « Par Dieu, ma chère petite !» me répondit ce misérable avec son impassibilité odieuse. « C'est bien facile à prouver, mais comment ne vous expliquez-vous pas vous-même ? Léonie ne vous aime plus, il a une autre maîtresse. « Mais prouvez-le » répétai-je avec exaspération. « tout à l'heure, me dit-il. Léonie a grand besoin d'argent, il y a des femmes d'un certain âge dont la protection peut être avantageuse. « Mais prouvez-moi tout ce que vous dites, m'écriai-je, ou je vous chasse à l'instant. »« Fort bien, répondit-il, sans se déconcerter. Nous faisons un accord. Si j'ai menti, je sortirai d'ici pour n'y jamais remettre les pieds. Si j'ai dit vrai en affirmant que Léonie m'autorise à vous parler de Lord Edwards, vous me permettrez de venir ce soir avec ce dernier. » En parlant ainsi, il tira de sa poche une lettre sur l'adresse de laquelle je reconnus l'écriture de Léonie.
« Oui,
oui, m'écriai-je, emporté par l'invincible désir de connaître mon sort. Oui, je le promets. » Le marquis déplia lentement la lettre et me la présenta. Je lus. « Mon cher vicomte, quoique tu me causes souvent des accès de colère où je t'écraserai volontiers, je crois que tu as vraiment de l'amitié pour moi et que tes offres de service sont sincères. Je n'en profiterai pourtant pas. J'ai mieux que cela et mes affaires reprennent un train magnifique. La seule chose qui m'embarrasse et qui m'épouvante, c'est Juliette. Tu as raison, au premier jour, elle va faire avorter mes projets. Mais que faire? J'ai pour elle le plus sot et le plus invincible attachement. Son désespoir m'ôte toutes mes forces. Je ne puis la voir pleurer sans être à ses pieds. Tu crois qu'elle se laisserait corrompre? Oh non, tu ne la connais pas. Jamais elle ne se laissera vaincre par la cupidité. Mais le dépit, dis-tu? Oui, cela est plus vraisemblable. Quelle est la femme qui ne fasse pas colère, par colère ce qu'elle ne ferait pas par amour? Juliette est fière, j'en ai acquis la certitude dans ces derniers temps. Si tu lui dis un peu de mal de moi, si tu lui fais entendre que je suis infidèle, peut-être... Mais, mon Dieu, je ne puis y penser sans que mon âme se déchire. Oh, essaye. Si elle succombe, je la mépriserai et je l'oublierai. Si elle résiste, oh, ma foi, nous verrons. Quel que soit le résultat de tes efforts, j'aurai un grand désastre à craindre ou une grande peine de cœur à supporter. « Maintenant, dit le marquis, quand j'eus fini, je vais chercher Lord Edwards. » Je cachai ma tête dans mes mains et je restai longtemps immobile et muette. Puis tout à coup, je cachai cet exécrable billet dans mon sein et je sonnai avec violence. « Que ma femme de chambre fasse en 5 minutes un porte-manteau, dis-je au laquais, et que Beppo mène la gondole. » « Eh, que voulez-vous faire, ma chère enfant ?» me dit le vicomte étonné. « Où voulez-vous aller ?»« Chez Lord Edwards, apparemment, lui dis-je, avec une ironie amère dont il ne comprit pas le sens. « Allez l'avertir, repris-je. Dites-lui que vous avez gagné votre salaire et que je vole vers lui. » Il commença à comprendre que je le raillais avec fureur. Il s'arrêta irrésolu. Je sortis du salon sans dire un mot de plus et j'allai mettre un habit de voyage. Je descendis, suivi de ma femme de chambre, portant le paquet. Au moment de passer dans la gondole, je sentis une main agitée qui me retenait par mon manteau. Je me retournai et je vis Chalin, troublé et effrayé. « Où donc allez-vous ? » me dit-il d'une voix altérée. Je triomphai d'avoir enfin troublé son sang-froid de scélérat. « Je vais à Milan, lui dis-je, et je vous fais perdre les 200 ou 300 sequins que Lord Edwards vous avait promis. »« Un instant, » dit le vicomte furieux. « Rendez-moi la lettre ou vous ne partirez pas. »« Beppo !» m'écriai-je avec l'exaspération de la colère et de la peur, en me lançant vers le gondolier. « Délivre-moi de ce ruffian qui me casse le bras !» Tous les domestiques de Léonie me trouvaient douce et m'étaient dévoués. Beppo, silencieux et résolu, me saisit par la taille et m'enleva de l'escalier. En même temps, il donna un coup de pied à la dernière marche et la gondole s'éloigna au moment où il m'y déposait avec une adresse et une force extraordinaires. Shalom faillit être entraîné et tombé dans le canal. Il disparut en me lançant un regard qui était le serment d'une haine éternelle et d'une vengeance implacable. Chapitre 14. J'arrive à Milan après avoir voyagé nuit et jour sans me donner le temps de me reposer ni de réfléchir. Je descends à l'auberge où Léonie m'avait donné son adresse. Je le fais demander. On me regarde avec étonnement. « Il ne demeure pas ici, » me répond le cameriere. Oh, il y est descendu en arrivant et il y a loué une petite chambre où il a déposé ses effets. Mais il ne vient ici que le matin pour prendre ses lettres, faire sa barbe et s'en aller. « Mais où loge-t-il » demandai-je. Je vis que le cameriere me regardait avec curiosité, avec incertitude, et que, soit par respect, soit par commisération, il ne pouvait se décider à me répondre. J'eus la discrétion de ne pas insister, et je me fis conduire à la chambre que Léonie avait louée. « Si vous savez où on peut le trouver à cette heure-ci, dis-je au cameriere, allez le chercher et dites-lui que sa sœur est arrivée. » Au bout d'une heure, Léonie arriva, les bras étendus pour m'embrasser. « Attends !» lui dis-je en reculant. « Si tu m'as trompé jusqu'ici, n'ajoute pas un crime de plus à tous ceux que tu as commis envers moi. Tiens, regarde ce billet. Est-il de toi ? Si on a contrefait ton écriture, dis-le-moi vite, car je l'espère et j'étouffe. » Léonie jeta les yeux sur le billet et devint pâle comme la mort. « Mon Dieu !» m'écriai-je, « j'espérais qu'on m'avait trompé. Je venais vers toi avec la presque certitude de te trouver étranger à cette infamie. Je me disais, « il m'a fait bien du mal, il m'a déjà trompé, mais malgré tout il m'aime. » S'il est vrai que je le gêne et que je lui sois nuisible, il me l'aurait dit il y a à peine un mois, lorsque je me sentais le courage de le quitter, tandis qu'il s'est jeté à mes genoux pour me supplier de rester. S'il est un intrigant et un ambitieux, il ne devait pas me retenir, car je n'ai aucune fortune et mon amour ne lui est avantageux en rien. Mais pourquoi se plaindrait-il maintenant de mon importunité ? Il n'a qu'un mot à dire pour me chasser. Il sait que je suis fier. Il ne doit craindre ni mes prières ni mes reproches. Et pourquoi voudrait-il m'avilir ? Je ne pus continuer. Un flot de larmes saccadait ma voix et arrêtait mes paroles. « Mais pourquoi j'aurais voulu t'avilir ? » s'écria Léonie hors de lui. Pour éviter un remords de plus à ma conscience déchirée. Tu ne comprends pas cela, Juliette. On voit bien que tu n'as jamais été criminelle. Il s'arrêta, je tombai sur un fauteuil, et nous restâmes atterrés tous deux. Pauvre ange, s'écria-t-il enfin, méritais-tu d'être la compagne, la victime d'un scélérat tel que moi ? Qu'avais-tu fait à Dieu avant de naître, malheureuse enfant, pour qu'il te jeta dans les bras d'un réprouvé qui te fait mourir de honte et de désespoir ? Pauvre Juliette ! Pauvre Juliette ! Et à son tour, il versa un torrent de larmes. Allons, lui dis-je, je suis venu pour entendre la justification ou ma condamnation. Tu es coupable, je te pardonne et je pars. Ne parle jamais de cela, s'écria-t-il avec véhémence. Hais à jamais ce mot-là de nos entretiens. Quand tu voudras me quitter, échappe-toi habilement, sans que je puisse t'en empêcher. Mais tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, je n'y consentirai pas. Tu es ma femme, tu m'appartiens et je t'aime. Je puis te faire mourir de douleur, mais je ne veux pas te laisser partir. J'accepterai la douleur et la mort, lui dis-je, si tu me dis que tu m'aimes encore. Mais oui, je t'aime, cria-t-il avec ses transports ordinaires. Je n'aime que toi, et je ne pourrai jamais en aimer une autre. Malheureux, tu mens, lui dis-je. Tu as suivi la princesse Zangarolo. Oui, mais je la déteste. Comment, m'écriai-je, frappé d'étonnement. Et pourquoi l'as-tu donc suivi? Quel honteux secret cache donc toutes ces énigmes? Chalin a voulu me faire entendre qu'une vile ambition t'enchaînait auprès de cette femme, qu'elle était vieille, qu'elle te payait. Ah, quel mot vous me faites prononcer! Ne crois pas à ces calomnies, répondit Léonie. La princesse est jeune, belle, et j'en suis amoureux. Ah, la bonne heure, lui dis-je, avec un profond soupir. J'aime mieux vous voir infidèle que déshonoré. Aimez-la beaucoup, car elle est riche et vous êtes pauvre. Si vous l'aimez beaucoup, la richesse et la pauvreté ne seront plus que des mots entre vous. Je vous aimais ainsi, et quoique je n'eusse rien pour vivre que vos dons, je n'en rougissais pas. À présent, je m'avilirais et je vous serais insupportable. Laissez-moi donc partir. Votre obstination à me garder pour me faire mourir dans les tortures est une folie et une cruauté. « C'est vrai, » dit Léonie d'un air sombre. « Pardon, je suis un bourreau de vouloir t'en empêcher. » Il sortit d'un air désespéré. Je me jetai à genoux. Je demandai au ciel de la force. J'invoquai le souvenir de ma mère et je me relevai pour faire de nouveau les courses après de mon départ. Quand mes malles furent refermées, je demandai des chevaux de poste pour le soir même, et en attendant, je me jetai sur mon lit. J'étais si accablé de fatigue et tellement brisé par le désespoir que j'éprouvais en m'endormant quelque chose qui ressemblait à la paix du tombeau. Au bout d'une heure, je fus réveillé par les embrassements passionnés de Léonie. « Non, c'est en vain que tu veux partir, me dit-il. Cela est au-dessus de mes forces. J'ai renvoyé tes chevaux. J'ai fait décharger tes malles. Je viens de me promener seul dans la campagne et j'ai fait mon possible pour me forcer à te perdre. J'ai résolu de ne pas te dire adieu. J'ai été chez la princesse. J'ai tâché de me figurer que je l'aimais. Je la hais et je t'aime. Il faut que tu restes. » Ces émotions continuelles m'affaiblissaient l'âme autant que le corps. Je commençais à ne plus avoir la faculté de raisonner. Le mal et le bien, l'estime et le mépris devenaient pour moi des sons vagues, des mots que je ne voulais plus comprendre, et qui m'effrayait comme des chiffres innombrables qu'on m'aurait dit de supputer. Léonie avait désormais sur moi plus qu'une force morale. Il avait une puissance magnétique à laquelle je ne pouvais plus me soustraire. Son regard, sa voix, ses larmes agissaient sur mes nerfs autant que sur mon cœur. Je n'étais plus qu'une machine qu'il poussait à son gré dans tous les sens. Je lui pardonnais. Je m'abandonnais à ses caresses. Je lui promis tout ce qu'il voulut. Il me dit que la princesse Zagalolo, étant veuve, avait songé à l'épouser, que le court et frivole engouement qu'il avait eu pour elle lui avait fait croire à son amour, qu'elle s'était follement compromise pour lui et qu'il était obligé de la ménager et de s'en détacher peu à peu ou d'avoir affaire à toute la famille. S'il ne s'agissait que de me battre avec tous ses frères, tous ses cousins et tous ses oncles, dit-il, je m'en soucierais fort peu. Mais ils agiront en grand seigneur, me dénonceront comme Carbonaro et me feront jeter dans une prison où j'attendrai peut-être 10 ans qu'on veuille bien examiner ma cause. Et j'écoutais tous ces contes absurdes avec la crédulité d'un enfant. Léonie ne s'était jamais occupée de politique, mais j'aimais encore à me persuader que tout ce qu'il y avait de problématique dans son existence se rattachait à quelque grande entreprise de ce genre. Je consentis à passer toujours dans l'hôtel pour sa sœur, à me montrer peu dehors et jamais avec lui, enfin à le laisser absolument libre de me quitter à toute heure, sur la requête de la princesse.